Au Capi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Marcel Ngombombala.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service Cancer du col de l'utérus. Facteur de risque, prise en charge médicale et moyens de prévention. On en parle tout à l'heure avec nos deux invités. Célestin Kachunga Madi, il est coordonnateur de l'Association internationale du cancer du sein ASICA CRDC, mais aussi Jean-Bernard Nkwambon, chef de service de cancérologie médicale, promoteur de la Polyclinique internationale de Brazzaville. Voilà nos deux invités pour ce sujet sur le cancer du col de l'utérus, facteur de risque, prise en charge médicale et moyens de prévention. Je vous rappelle le numéro des contacts si vous êtes intéressé, composez 081-890-6394 ou les 099-706-6394. Willem Lungamba est toujours là, la technique est Tatima Pouk également toujours là, à la réalisation et coordination de ces magazines présentés par Marcel Ngomobala sous la supervision de Jean-Marc Matouak.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Vous êtes une femme leader, vous connaissez une femme leader.
Responsable politique, haut cadre d'État, avocat, juge, journaliste, responsable dans la société civile, le monde académique, les entreprises publiques, les organisations internationales, les ONG, entrepreneurs ou encore leaders communautaires. Connectons-nous, faites-vous connaître pour intégrer le premier annuaire des femmes leaders en RDC. Produit par ONU Femmes, l'Organisation des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.
Contactez-nous par téléphone au 082 629 11 54 ou alors par email femmeleader@gmail.com.
Voilà, bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix, c'est votre magazine de la vie au quotidien. Au Capi Service, cancer du col de l'utérus, facteur de risque, prise en charge médicale et moyens de prévention. On en parle tout à l'heure avec nos deux invités qui viennent de nous rejoindre dans ce studio. J'ai en face de moi Célestin Kachunga Madi, coordonnateur de l'Association internationale du cancer du sein, ASICAS RDC. Monsieur Célestin, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Et à ma droite, j'ai docteur Sandrine Modia, il est gynécologue obstétricienne. Bonjour docteur Sandrine Modia.
Bonjour, monsieur journaliste.
Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. On va aborder cette question sur les cancers du col de l'utérus, facteurs de risque, excusez-moi, prise en charge médicale et moyens de prévention. Comme vous le savez, l'incidence du cancer du col de l'utérus est estimée à 30 ou 35 pour 100 000 habitants. En tout cas, c'est selon l'Association internationale du cancer du sein, ASICA CRDC, pour laquelle nous avons l'honneur de recevoir dans ces studios le coordonnateur de cette association. Et à Kinshasa, la capitale, on estime à 3 500 le nombre de nouveaux cas par an. Alors, quels sont les facteurs à la base du cancer du col de l'utérus? Comment s'est fait la prise en charge médicale et quels sont les moyens de prévention du cancer du col de l'utérus? Je rappelle le numéro des contacts. Si vous êtes êtes intéressé, n'hésitez pas, composez les 081-890-6394 ou les 09-726-6394. Voilà, Célestin Kachunga, vous êtes coordonnateur de l'Association internationale du cancer du sein. Rappelez-nous rapidement, c'est quoi le travail de cette association?
Oui, tout d'abord, je dois d'abord commencer par vous remercier pour cette invitation. Et en fait, brièvement, je vais dire, donc, l'ONG ASICAS d'abord a été créée depuis 2009 en République démocratique du Congo. Et c'est une organisation des droits congolais avec une vision large. Qui milite pour les cancers du sein, les cancers du col de l'utérus. Donc nous sommes là dans le cadre de la sensibilisation de la formation et de la population et la formation des prestataires soignants et les renforcements des capacités des relais communautaires. Donc des relais communautaires, ça veut dire ils ont quel rôle d'aller vers la population, les sortir dans l'ignorance qu'ils ont en dépistage précoce. Comme vous le savez, les cancers du sein ou les cancers en général est curable s'il est détecté à temps. Et à part ça, nous accompagnons les malades dans la prise en charge médicale. Donc, comme vous le savez, la prise en charge liée au les traitements des cancers pose problème, ça a un coût. Donc, la quasi-totalité des malades de cancer dans notre pays n'ont pas assez d'argent. Ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Nous les accompagnons dans ce sens-là. Et à part ça, nous accompagnons aussi les malades dans l'aspect psychosocial et nutritionnel, comme vous le savez.
Et quand vous dites accompagner gratuitement, ou bien il faut un peu de moyens pour être accompagné?
Bon, il est vrai que nous, on n'appuie pas à 100%. On appuie en partie. Et la concernée appuie aussi, mais on appuie une grande partie de la prise en charge médicale. Donc, bien sûr, il faut savoir que nous sommes suivis par les financements. Donc, comme vous le savez, dans notre pays ou dans les pays à faible et moyen revenu, il n'y a pas encore de financement lié à la prise en charge ou à la lutte contre les cancers. Merci.
Voilà, je me retourne vers Dr Sandrine Mondia, qui est gynécologue obstétricienne. Alors, docteur, avant de parler du cancer du col de l'utérus, vous pouvez nous rappeler d'abord qu'est-ce qu'il faut comprendre quand un cancer? C'est quoi un cancer?
Alors, qu'est-ce que c'est un cancer? Je vais donner un exemple simple. Un enfant, quand il naît, il grandit, il se reproduit. Et son corps ne cesse de fabriquer des nouvelles cellules parce pour devenir l'adulte qui sera. Et ces cellules sont très bien programmées pour ne pas dépasser en nombre. Malheureusement, il arrive que le commandement au niveau de ces cellules ne passe pas bien et que ces cellules, au lieu d'arrêter de se reproduire, continuent. Et quand elles continuent, elles envahissent les autres cellules. Et c'est ça qu'on appelle un cancer. Elles débordent leurs frontières, elles deviennent nuisibles pour le corps en général.
Alors, puisqu'on parle aujourd'hui du cancer du col de l'utérus, parlez-nous de facteurs de risque de ces cancers du col de l'utérus.
Alors, déjà, la cause du cancer de l'utérus est connue. C'est le virus du papillome humain. C'est connu, c'est un virus qui est sexuellement transmissible. Alors, les causes maintenant qui favorisent la transmission de ce virus chez les femmes, c'est essentiellement le fait d'avoir des rapports sexuels très tôt. D'avoir de multiples partenaires, d'avoir également, on incrimine également les nombreuses grossesses, et d'avoir aussi parfois une hygiène intime qui laisse à désirer, parmi les grandes causes.
Donc il faut absolument sensibiliser les femmes par rapport à toutes ces causes. Est-ce que vraiment vous pensez que les femmes sont suffisamment sensibilisées? Parce que quand vous parlez déjà qu'il y a des rapports sexuels précoces, qu'il y a des partenaires multiples, il y a moyen de sensibiliser les femmes par rapport à ces facteurs de risque. Et puisqu'on le sait, le cancer du col de l'utérus, c'est parmi les facteurs le plus fréquent chez la femme.
Exactement. Oui, bon, la sensibilisation, nous essayons de faire le maximum. Et d'ailleurs, ce que nous faisons maintenant, vous nous aidez à le faire. C'est comme ça qu'on appelle, on fait aussi un appel aux médias, dont le rôle est d'en parler le plus souvent possible pour que le maximum de femmes soient sensibilisées. Donc on vous remercie déjà pour l'invitation. Est-ce qu'on en fait suffisamment? On fait ce qu'on peut. Vous savez, c'est vrai, on peut toujours reprocher à notre pays beaucoup de choses, mais nous essayons, par exemple, les ONG comme nous, ou comme ASICAS, nous, la Fondation des Anges, ou ASICAS, nous essayons, par les moyens que nous avons, de sensibiliser le maximum de femmes possible.
Voilà. Et puisque vous parlez de la Fondation des Anges, une fondation avec le promoteur le docteur Antoine Modia, généralement, pendant le mois de mars, vous essayez d'organiser des campagnes de dépistage pour ce qui est du cancer du col de l'utérus et du sein, et c'est ce qui est en train de se faire maintenant. Est-ce que vous avez comme l'impression que les femmes répondent de plus en plus à ce genre de campagnes? Parce que si j'ai bonne mémoire, cette fois-ci, c'est la 8e édition.
La 10e
édition, voilà. Donc, deux éditions de plus, oui.
Oui, c'est la 10e édition. Et effectivement, nous avons remarqué qu'au fur et à mesure des années, les femmes répondaient plus nombreuses et les femmes revenaient chaque année. Quand elles revenaient se faire dépister, elles reviennent les années qui suivent. Et donc, ça nous encourage à continuer l'action que nous faisons. Au départ, nous étions plus sur des maladies qu'on pouvait dépister à l'échographie, donc les myomes, les kystes, etc. Mais nous sommes rendus compte que nous ne pouvons pas dépister les femmes et passer à côté de regarder leur col. C'est ainsi qu'avec la synergie des associations et même du Centre national de lutte contre le cancer, cette année, nous avons placé en fait des dépistages avec le frottis oncologique. Et puis, nous essayons de suivre les femmes. Comme le coordonnateur, M. Célestin, a dit, c'est vraiment la synergie de toutes les associations et des personnes de bonne volonté qui font que maintenant, nous pouvons même les soigner. Et parfois, comme il a dit, pour le cancer du col, pris tôt, nous pouvons même le guérir.
Quand nous parlons du cancer du col de l'utérus, donc pour le commun des mortels, l'utérus, c'est bien la matrice, non?
L'utérus, c'est l'entrée de la matrice.
L'entrée de la matrice, oui. D'accord, c'est bien. Il faut que les gens comprennent bien de quoi il s'agit. Alors, puisque vous êtes en train de... Vous faites le dépistage, comment s'est fait le dépistage? Et une fois qu'une femme dépistée, disons pas positive, mais vous pensez qu'il faut des examens, oui. Peut-être que la femme peut avoir un cancer qui est en train de se développer, qu'est-ce qui se passe après?
Alors, il y a différentes stratégies, oui. Et il y a différentes catégories également. Quand la dame vient et qu'au niveau du col, on détecte qu'elle a, on va dire, des lésions précancéreuses, c'est-à-dire que le col vous dit, ici, on commence à avoir des transformations, faites attention, mais c'est pas encore un vrai cancer. À ce moment-là, on peut même retirer ces lésions-là. On laisse à la femme ses organes intacts, elle pourra avoir des enfants après, etc. Alors, il y a des catégories plus extrêmes, comme on arrive souvent malheureusement à se dire, bon, ici, on ne sait plus opérer. C'est un cas, on va dire, palliatif, comme on dit. Donc, on accompagne la patiente, on accompagne dans sa maladie, on soulage la douleur, on maintient l'hygiène et tout ça, une certaine dignité. Ça, c'est un cas extrême où nos traitements ne peuvent plus rien faire. Maintenant, le gros problème qui nous pose, ce qui nous coûte beaucoup de moyens, c'est les cas intermédiaires. Donc, la dame est soignable et opérable. Mais les coûts de cela sont vraiment énormes. Nous, chacun à nos niveaux, on essaie de faire ce qu'on peut. Si on peut opérer, on opère. Mais la chimiothérapie qui va suivre ou la radiothérapie qui va suivre, ce serait difficile que nous puissions le faire pour chacune de ces dames-là. C'est là que nous sommes limités et que nous faisons on demande de l'aide, en fait.
Il faut reconnaître le traitement du cancer coûte très, très cher.
Oui.
Donc, c'est pas vraiment à la portée de toutes les bourses.
On peut aller parfois jusqu'à 5 000, 10 000. Donc, c'est vraiment pas à la portée de toutes les bourses. Les personnes les plus nanties peuvent voyager, mais ça leur coûte tout autant. Ça peut ruiner des familles entières, rien qu'une maladie. Donc, c'est pour ça que nous appelons vraiment, nous faisons appel à la solidarité. Et comme c'est le 8 mars, à la solidarité féminine. Et celles qui peuvent payer pour celles qui ne peuvent pas payer, c'est vraiment ce que nous prenons.
Voilà, avant d'ouvrir le standard, il y a déjà de réactions des auditeurs qui nous appellent de Kinshasa et du Kananga. Je m'en vais poser une question à Célestin Kachunga, puisque vous aidez à encadrer ou à venir en aide à des femmes qui sont concernées par le cancer, parce que ça coûte énormément cher pour accéder aux soins. Est-ce que vous avez déjà une idée des femmes que vous avez déjà accompagnées depuis que la CICAS, votre association existe? Et puis, est-ce que vous avez deux fois la contribution du partenaire privé ou encore mieux de l'État congolais?
Oui, merci, une bonne question, parce que si je savais que cette question devait venir, j'allais peut-être préparer les bases de données des malades qu'on a déjà eu à aider. Mais en réalité, de 2009 à nos jours, on a déjà aidé beaucoup de gens, parce que nous ne sommes pas qu'à Kinshasa, et j'insiste souvent. Et lorsque je passe sur vos antennes, que Kinshasa n'est pas égal à la RDC. Et nous, du moins, nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo et dans plusieurs provinces de la République. Et à ce qui concerne l'appui ou l'accompagnement des malades, nous avons accompagné beaucoup de malades. et on continue. Il est vrai qu'il n'y a pas assez de moyens dans la lutte contre les cancers. Et à ce qui concerne d'abord la formation des relais communautaires, parce que ce que nous faisons ici, et nous sommes en train de sensibiliser, comme Dr Sandrine vient de le dire, et aussi les relais communautaires que nous formons, en fait, c'est pour aller vers la population. Et les relais communautaires, là, sont limités. Mais ici, du moins à la Radio Capi, parce qu'après ici, on aura des coups de fil, des gens de partout, ou des États-Unis, en Europe, qui vont nous appeler. Mais les relais communautaires que nous formons, ils sont limités pour un secteur
donné. Avant d'oublier, il y a moyen de donner le numéro de votre association, déjà?
Oui, les numéros de l'ONG ASICAS, le fixe de l'ONG ASICAS, c'est plus 243 89 35 47 376.
Je répète, hein, j'espère que je l'ai bien noté, c'est plus 243 89 35 47 376.
Oui.
Donc, si vous êtes en train de nous suivre, vous avez un problème, peut-être que vous êtes intéressé par ces sujets, ou bien vous voulez venir en aide à toutes ces personnes qui ont des problèmes avec que ce soit les cancers du sein ou les cancers du col de l'utérus. Voilà, vous avez là le numéro de Longe Asicas, plus 243 89 35 47 376. On revient à vous, le temps pour nous de prendre déjà des auditeurs qui sont en ligne. Nous avons déjà Glody Bwanganga qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour, Glody Bwanganga.
Bonjour, monsieur les journalistes, et bonjour à tous les auditeurs. Et bonne fête à toutes les femmes du monde, parce que aujourd'hui, c'est leur journée.
Merci. Voilà, on vous écoute, Glody Bwanganga.
Oui, merci pour la parole accordée. Moi, je pense que le sujet d'aujourd'hui, c'est très important. Mais ben, je vais passer juste aux questions à nos invités qui sont là avec vous. Moi, je pense que actuellement, cette maladie des cancers là, ben, beaucoup de gens pensent que ce sont des maladies liées à la sorcellerie, mais moi je dirais non. Beaucoup de gens pensent comme ça, surtout dans l'intérieur du pays. Alors, car cela ne tient, je voulais juste peut-être poser quelques questions, si vous pouvez nous aider, et aider aussi certains auditeurs qui nous écoutent à partir de ce moment, peut-être ils n'ont pas eu la chance de vous contacter. La première question est de savoir, sur le 26 provinces de la République démocratique du Congo, cette ONG se situe dans combien de provinces? Parce que Kinshasa n'est pas seulement la RDC, vous venez de le dire. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, quels sont les symptômes de cette maladie de cancer là? Par exemple, à tel âge, si vous pouvez nous énumérer à partir des classes, par exemple, de 15 ans à 25 ans, voilà les symptômes qui se passent chez les jeunes filles. Voilà, par exemple, telle chose qui se passe. Et de tel âge à tel âge, voilà, si vous pouvez nous énumérer ces symptômes là et des différentes catégories. Et à quel type de cancer? Parce qu'il y a certaines choses au moins. Quelqu'un peut constater le malaise au niveau de son corps, mais il n'arrive pas à comprendre qu'il s'agit de quoi, peut-être. Mais si peut-être vous expliquez aux auditeurs qui nous écoutent à partir de ce moment, peut-être, voilà les symptômes des cancers. Si peut-être une femme à tel âge, elle commence à sentir, par exemple, telle douleur à telle place, on suppose que soit ce sont des symptômes des cancers, soit ce ne sont pas des symptômes des cancers. Je pense que ceux qui nous écoutent peuvent vraiment comprendre, parce qu'il y a certaines personnes au moins qui sont en train de sentir quelques douleurs, mais peut-être vu qu'ils sont ignorants, ils ne savent pas. Ça commence par quels symptômes, peut-être ils sont bloqués. Alors pour chuter, ici peut-être à Kinshasa, comment faire pour vous rejoindre aussi? Ça c'est d'abord la dernière question. Et aussi pour ajouter quelque chose, peut-être vous avez oublié, je pense que la radio Capi c'est une radio internationale, il y a aussi des Congolais qui vous écoutent à partir de ce moment en Europe. J'aimerais peut-être si vous pouvez balancer un numéro bancaire, peut-être à partir de l'Europe, il peut vous transférer de l'argent au niveau de compte, parce que vous êtes en train de faire un travail là vraiment, qui aide des Congolais, vous êtes en train de sauver de l'esprit et de l'âme des Congolais, donc on peut que vous encourager, on peut que vous applaudir. J'ai dit et je vous remercie, et de bonnes choses, plein succès.
Merci Glody Bwanganga d'avoir appelé de Kinshasa. Gentil, vous êtes à Kananga, bonjour Gentil.
Bonjour Monsieur Marcel, bonjour aussi à l'invité, bonjour à tous qui me suivent à ce moment. C'est Gentil parce que moi je suis depuis la ville de Kananga.
On vous écoute.
Oui, j'ai seulement aussi des questions et des suggestions pour moi. L'école des littéris pour moi, je vois que c'est seulement l'avortement prématuré, beaucoup des rapports sexuels, c'est ça ce qui provoque les cancers d'école de l'utérus vraiment. Et beaucoup des rapports, l'avortement prématuré, c'est ça ce qui provoque d'abord les cancers au col de l'utérus. Et encore, les femmes ont tenté d'utiliser même le médicament traditionnel comme ça qui ne convient pas vraiment. C'est pour cela que les femmes se retrouvent avec cette maladie. Alors, j'ai aussi des questions à poser à monsieur l'invité. Qu'est-ce qui fait que les femmes trouvent les cancers dans l'école de l'utérus selon lui? Comment connaître que cette femme ici à les cancers. Bon, est-ce que la prévention ou la prévention des cancers et la sensibilisation doit être gratuite ou bien qu'est-ce qu'on veut ou qu'on va faire par là? Et à quel âge où une femme peut avoir les cancers? C'est ça ce que je voulais aussi demander à l'invité. Bonjour. Bon, je dis, je vous remercie, c'est gentil parce qu'on va chez nous depuis la vie des Canards. Merci.
Merci à vous aussi, gentil d'avoir pu du Canada. Samuel Béa, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Samuel.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à vos invités.
On vous écoute, Samuel. Qu'est-ce que vous avez comme préoccupation sur ce sujet, sur les cancers du col de l'utérus?
Ah oui, ma préoccupation est au niveau... Donc, j'ai seulement des questions à poser à nos invités. La première question est de savoir, en termes de sensibilisation, comment est-ce que le groupe, ou soit l'association, parvient à convaincre les filles à dénoncer que non, j'ai eu à connaître le rapport sexuel à tel âge? Peut-être que la fille n'a pas encore connu, n'a pas encore développé la maladie, mais comment est-ce que dans la sensibilisation, on peut parvenir à convaincre, parce que nous savons, dans notre état actuel, pour qu'une fille puisse accepter que non, je vais passer un rapport sexuel à un âge là, trop bas, il me faut passer, voir un gynécologue pour être consulté. Non, c'est très difficile parce que là, on a d'aller dire ça. Mais comment est-ce que, quels sont les termes qui sont utilisés pour pousser ces filles-là à dénoncer ça? Et la deuxième préoccupation, à quel pourcentage toutes les lésions vaginales non liées peut-être à un rapport sexuel bas mènent à un cancer? Parce que nous voyons, à des fois, il y a des filles autres là dans nos villages, ou soit ici à Kinshasa, nous sommes, les filles passent des rapports sexuels trop bas, mais toutes les filles ne développent pas la maladie. Mais je ne sais pas, en termes de pourcentage, comment... Qu'est-ce qu'on peut estimer? Donc, si peut-être sur 10 filles qui ont passé de tels rapports sexuels, combien développent les cancers? Et d'autres qui n'en développent pas, qu'est-ce qu'ils sont aussi à la base? Et pour chuter, je veux même savoir, dans les 4 trous, j'ai entendu les docteurs parler seulement de grossesses trop multiples, grossesses multiples. Maintenant, c'est sur 4 trous. Maintenant, je demande, est-ce que tous les 4 trous poussent toujours, oui, ou soit aboutissent au développement d'un cancer du col, où ça, on compte seulement les grossesses multiples? C'est vraiment ça. Là, nous avons les 4 trous, mais elle a parlé seulement que c'est seulement les grossesses multiples. Est-ce que les 3 autres, là, les grossesses trop rapprochées, les grossesses tardives, les grossesses multiples, est-ce que d'autres, là, ne sont pas aussi concernées dans le développement du cancer? Je dis, je vous remercie.
Merci, Samuel Béa. Merci d'avoir appelé de Kinshasa. Alors, je me tourne d'abord vers Dr Sandrine Modia. Vous avez cette question sur les symptômes du cancer du col de l'utérus et notamment également sur la catégorie d'âge. À partir de quel âge peut déjà se manifester ces types de cancers? Et puis, s'il y a moyen de revenir sur les facteurs de risque, parce que vous avez parlé de rapports sexuels précoces, vous avez parlé des rapports multiples, si vous voulez bien revenir par rapport aux facteurs de risque aussi.
Merci pour la question. Pour les symptômes, le gros problème en fait du cancer du col, c'est que les symptômes se développent très tardivement. On peut avoir l'histoire naturelle du cancer pour qu'on puisse venir dépister et voir que vous avez des lésions précancéreuses. Ça peut prendre 10 ans. C'est pour ça qu'on demande aux femmes, dès qu'elles ont leur rapport sexuel, on prend 10 ans après, à partir de là, elles commencent à faire des dépistages chaque année. Malheureusement, chez nous, en RDC, les rapports sexuels chez les jeunes filles sont très, très précoces. Officiellement, on parle de 13 ans, mais quand vous allez sur le terrain, on arrive parfois à 9 ans pour le premier rapport sexuel. Donc, vous rendez compte que 10 ans après, on peut avoir une jeune fille de 19 ans qui a développé un cancer. Et la particularité, c'est que chez nous, les cancers, c'est de plus en plus tôt. Vous avez des jeunes filles de 21 ans, de 22 ans, qui ont des cancers du col au stade terminal. Donc, la première étape qui dure 10 ans, c'est il n'y a pas de signe. Il n'y a pas de différence entre une jeune femme qui va développer le cancer du col et une...
Mais, docteur, excusez-moi de vous interrompre, c'est un message très, très important. Donc, puisque vous dites les symptômes apparaissent généralement tardivement, prenons autour des dizaines d'années, lorsque vous avez déjà 10 ans, plutôt prenons 12 ans, et que vous avez déjà des rapports sexuels, dites-vous bien que c'est pas impossible que vous puissiez développer avec les temps ces cancers-là.
Pas du tout, c'est pas impossible.
Donc, il est déjà plus sage de commencer à faire le dépistage. Le dépistage est donc très, très important.
Exactement. Voilà, exactement. Parce que si vous faites le dépistage, on peut détecter très tôt que votre col commence à se transformer et on peut agir. Et après, si on agit, vous pouvez ne plus parler du cancer du col de toute votre vie, parce qu'on l'aura soigné à temps. Après, vous allez au contrôle. Le problème, c'est que dans notre pays, on demande aux femmes de voir son médecin ou son gynécologue au moins une fois par an. C'est cette mentalité-là que nos sœurs et nos mamans congolaises n'ont pas.
Mais ils disent que faut payer à la consultation, des fois. N'ont pas l'argent pour payer la consultation. Voilà, il faut profiter des campagnes, c'est ça?
Bon, il faut profiter des campagnes, mais bon, c'est pas tout le monde. Il y en a qui peuvent payer, mais elles le font pas. Oui. Il y a beaucoup de raisons qui poussent ces femmes à pas consulter, et les moyens financiers, c'est pas la première raison. Loin de là. Il y a vraiment une dizaine de raisons que les femmes ne viennent pas. Il y a entre autres que c'est la sorcellerie. Parfois, on prie d'abord, etc. Mais les raisons financières, c'est la cinquième raison pour laquelle les femmes ne viennent pas consulter. Donc, c'est pas en tête. Alors, en termes de symptômes, si je peux continuer, les 10 ans passés, la femme va commencer à se plaindre d'hémorragie de contact. C'est-à-dire que quand elle a des rapports sexuels, elle saigne. Ou alors, pour celles qui font de l'hygiène intime de façon tout à fait inappropriée, c'est-à-dire en mettant leurs doigts jusqu'à toucher leur col, elles remarquent des saignements. Ça, c'est un signe tout à fait capital. Une femme qui saigne en dehors des règles doit absolument consulter, ne fût-ce que pour la rassurer, pour lui dire, bon, ça peut être une infection ou autre chose. Et ensuite, il y a des odeurs nauséabondes. Il y a des pertes malsaines, donc qui sentent mauvais, qui sont abondantes. Et le dernier signe de cette pathologie, c'est la douleur. Quand la douleur est là, ça veut dire que vous êtes déjà à un stade très avancé, malheureusement.
Là, il faut absolument, dès que ces signes apparaissent, il ne faut pas attendre, il faut aller consulter un médecin.
C'est un message que je dois donner. Oui. Il faut aller se faire dépister chaque année. N'attendez pas des signes. Normalement, à partir du moment où vous avez des rapports sexuels, après 5 ans, 6 ans, commencez à aller voir votre médecin une fois par an.
Et s'il faut revenir sur le facteur de risque, parce qu'il y a, il y a un auditeur qui a parlé des avortements prématurés. Vous avez évoqué ça comme facteur de risque. Vous voulez bien revenir sur le facteur de risque?
Oui, alors j'ai parlé des rapports sexuels précoces. Oui. Alors j'ai parlé des partenaires multiples. Et puis j'ai parlé des nombreuses grossesses. Les nombreuses grossesses, pourquoi? À chaque fois que la femme accouche, son col est soumis à un traumatisme. Et je vais en même temps d'ailleurs répondre à l'autre question qui disait pourquoi des femmes développent le cancer du col et d'autres femmes ne développent pas. C'est parce que d'abord, il existe le virus qui transmet le cancer du col. Il en existe plus d'une centaine. On parle même de 200 virus. Mais parmi eux, il y en a une trentaine qui, eux, vont développer le cancer. C'est pour ça que si vous avez différents partenaires, vous avez une chance d'attraper... J'allais dire le bon virus, donc le mauvais virus. Ça, c'est de un. Et de deux, j'ai perdu le fil des idées, mais bon. De deux.
Vous êtes en train de parler des facteurs de risque par rapport à comment on attrape. Tout à fait.
Donc, si maintenant vous avez eu beaucoup de partenaires, mais que vous n'avez pas le virus qui transmet le cancer, ben vous développerez pas de cancer. Mais ces autres virus-là développent aussi d'autres maladies. Il y a des femmes qui se retrouvent avec, par exemple, des lésions, on va dire vulvaires, des boutons au niveau de la vulve. C'est transmis par un autre type de papilloma humain. Maintenant, pour les grossesses, les nombreuses grossesses, du fait que le col est traumatisé, eh ben, comme la femme est en contact avec le virus profite à ce moment-là d'entrer au niveau rond des différentes lésions et vous trouvez que les femmes qui développent souvent ce cancer-là ont parfois beaucoup d'enfants.
Voilà, donc c'est bien compris, les femmes, prenez l'habitude de vous dépister, hein, de faire le dépistage, en tout cas au moins chaque année, du col de l'utérus. Et puis, comme a dit le docteur Sandrine Modia, n'attendez pas d'avoir du signe qu'il a évoqué, hein, pour que vous partiez rapidement consulter un médecin. Il y a moyen déjà, en tout cas, d'éviter ces cancers du col de l'utérus lorsqu'on s'est fait dépister précocement. Alors, Célestin, il y avait cette question par rapport à la CICAS. Il y a un auditeur qui a cherché à savoir qu'on a 26 provinces. Dans combien de provinces se trouve votre ONG? Et puis, il a cherché à savoir comment vous faites pour sensibiliser la population, surtout les jeunes.
Ok, merci. Au fait, ASICAS est très opérationnel dans 4 provinces. Mais l'idée est de couvrir l'ensemble de la République démocratique du Congo, faute de moyens. Et nous sommes dans 4 provinces. Aussi, les stratégies de communication ou de convaincre les femmes ou les jeunes filles à adhérer au dépistage, au fait, nous avons des formations par rapport à ça. Voilà pourquoi je vous ai parlé des relais communautaires que nous formons. Des relais communautaires là, ont la capacité d'échanger avec les femmes et aussi de les convaincre par rapport ou de les encourager à faire les dépistages. En fait, lorsque nous sommes devant les jeunes filles, qu'est-ce que nous les expliquons à ce qui concerne par exemple les cancers du col de l'utérus? On les montre d'abord que non, cette maladie, c'est une maladie très grave et qui n'affecte pas que les nantis. Et aussi, dans plusieurs conférences ou animations de sensibilisation, on montre aussi les images. Bien sûr, ce sont des images choquantes, mais nous sommes obligés de montrer dès lors qu'ils voient ça. Et puis, on les dit. En réalité, comme Dr Sandrine vient de le dire, nos femmes ou nos jeunes filles ne devaient pas mourir de suite d'un cancer du col. En réalité, c'est ça. Parce que si du moins, on pouvait dépister précocement. Parce que, comme Dr Sandrine vient de le dire, pour qu'on parle de cancer, on commence d'abord par parler des lésions précancéreuses. Pour que ça quitte aux lésions précancéreuses vers un cancer confirmé, il faut 10 à 15 ans. Donc, si du moins, avec les peu de moyens que nous avons, nous mettons ça au dépistage qui ne demande pas beaucoup de moyens, parce que le dépistage des cancers du col de l'utérus, avec l'expérience que nous avons, avec des cliniques mobiles, les dépistages mobiles que nous organisons, ça nous demande 7 à 10 minutes. Là, on libère la femme. Ça ne fait pas mal. Et là, on libère la femme et la femme peut revenir encore l'année prochaine. Ce n'est pas chaque jour qu'il faut passer les dépistages. Vous voyez, à ce qui concerne les dépistages des cancers du sein, parce qu'on parle des cancers du sein, les cancers du col de l'utérus ici, nous faisons la promotion des gestes de l'autopalpation. C'est ce que nous montrons, nous expliquons aux femmes. Donc, chaque année et chaque mois, la femme ou la jeune fille doit palper les seins. Donc, ce n'est pas chaque jour qu'il faut faire ça. Une semaine après les règles, et si vous voyez encore des règles, il faut faire les gestes d'autopalpation rapidement et debout devant un miroir et vous regardez vos seins s'il n'y a pas des anomalies, des déviations du sein, s'il n'y a pas des rétractions du mamelon et aussi vous regardez si vous n'avez pas des ganglions parce que le plus souvent les cancers du sein, docteur Sandrine va entrer en profondeur.
Dans les cancers du sein, je pense que c'est très très important, c'est parce que c'est l'un des cancers principaux chez une femme. Je pense qu'il y aura toute une émission rapport à ça, mais c'est bien d'en parler déjà parce que je sais ça fait partie du travail de sensibilisation de votre ONG, notamment pour ceux qui ont du cancer du sein. Alors, on va retrouver rapidement deux autres auditeurs qui sont en ligne, la Boumediene, qui nous appelle de Lubumbashi également, Madame Claudia, qui est à Kolwezi. Boumediene, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Boumediene.
Bonjour, Marcel. C'est encore Boumediene.
On vous écoute.
Moi, je sors d'abord en partant de la définition du cancer. Je me vais poser la question à nos deux invités. Quelles sont les causes qui poussent que les cellules puissent se multiplier en exagération? C'est à partir de nourriture que nous prenons ou bien il y a une autre raison? Là, c'est moi la première. La deuxième, dans les causes, je prends les deux premières causes, prématuré et exagéré. Quand on parle de prématuré, moi je vois les jeunes filles, les élèves. Exagéré, je prends les professionnels de sexe. Que fait l'association pour sensibiliser les deux catégories, puisque c'est là où je vois qu'il y a beaucoup de pourcentages que nous pouvons avoir dans ces deux catégories-là. Merci beaucoup.
Voilà, merci à Boumediene d'avoir appuyé de Lubumbashi. Madame Claudia, ça fait plaisir de vous retrouver encore pour cette deuxième partie de l'émission sur un sujet qui concerne encore une fois la femme. Madame Claudia, vous nous appelez de Kolwezi. Rebonjour.
Bonjour, merci Radio Okapi. Votre question concerne la femme rurale qui est encore marginalisée, discriminée. Elle n'a même pas encore l'information sur la maladie. En fait, la meilleure façon de lui faire parvenir l'information, c'est passer par la radio. Le problème qui se pose est qu'elle ne suit même pas la radio pour des raisons multiples. Elle prétend qu'elle est au champ, elle est accablée par des travaux domestiques et tout ça. Et je pense qu'il faut vraiment chercher à l'atteindre. Et je pose la question à l'invité, comment est-ce qu'il faut faire des plaidoyers en faveur de la femme rurale, parce qu'il n'y a pas assez de médecins dans les villages, il n'y a même pas de santé adéquate. C'est un peu ça ma préoccupation.
Merci, Madame Claudia, depuis Kolwezi. Safari, vous êtes à Iga, Barrière, en Ituri. On vous écoute, Safari.
Bonjour également aux deux invités qui sont au plateau.
Bonjour.
Je crois que j'ai une petite question à poser aux invités. C'est-à-dire, lorsqu'une femme est détectée, elle tombe positive de cette maladie en question. Alors, on devra attendre combien de jours quand le cancer n'est pas soigné? C'est-à-dire, le cancer non soigné tue dans combien de temps? Je vous remercie.
Vous avez dit, répétez votre question.
La question est de savoir, le cancer non soigné peut tuer une personne dans combien de temps?
D'accord, c'est bon. Merci Safari d'avoir appelé depuis Igabaria. Docteur Sandrine Modia, cette question, de manière générale, Boumediene a cherché à savoir qu'est-ce qui explique qu'il y ait multiplication des cellules anormales dans les corps.
Alors, il y a deux ordres de raisons principalement. Il y a des raisons internes. La façon dont on est fabriqué, et puis il y a des raisons externes. Dans les raisons internes, je vais essayer d'aller rapidement en expliquant 3 heures de cours en 2 minutes. Nos cellules, en fait, l'unité fondamentale de comme on est formé, sont très bien régulées. Elles obéissent à des ordres que notre cerveau donne d'une façon ou d'une autre, et quand elles atteignent, par exemple, leurs voisins, elles s'arrêtent. Donc, si notre monde fonctionnait comme nos cellules, on n'aurait pas vraiment beaucoup de problèmes. Elles s'arrêtent. Et quand elles veulent dépasser, le corps donne l'ordre à cette cellule qui devient indisciplinée de s'auto-détruire. Alors, il arrive que certaines cellules perdent ce commandement-là, ce lien-là. Et quand le corps lui donne l'ordre de s'auto-détruire, elles ne s'auto-détruisent pas. Au contraire, elles continuent à se reproduire. Et c'est ça, elles vont devenir un cancer. Alors, qu'est-ce qui fait que certaines cellules perdent cette capacité de s'arrêter? Il y a donc il y a des facteurs internes qui peuvent être héréditaires. C'est pour ça que vous avez certains cancers qui sont héréditaires et d'autres ne le sont pas. Il y a de multiples facteurs, je ne vais pas entrer là-dedans. Mais de façon externe, ça peut être aussi notre mode de vie, notre alimentation. Nos ancêtres mangeaient vraiment ce qu'on appelle bio naturel. Mais aujourd'hui, chez nous, à Kinshasa, même quand on dit qu'on mange bio, en général, on est bourré d'engrais. Et dans ces engrais, il y a des hormones, il y a des toxiques, il y a du plomb. Surtout, tout ce qu'on plante au bord de la route, c'est plein de plomb. Et quand nous mangeons toute cette nourriture, ça entre dans notre corps. Notre corps le réduit à leur plus simple expression. Au point où ils peuvent arriver à entrer dans les cellules et perturber l'ordre et faire en sorte qu'une cellule qui était tout à fait normale devienne malade et se reproduise sans s'arrêter. Donc ça, c'est parmi les facteurs qui conduisent au cancer.
Il y avait également cette question de Safari qui a appelé depuis Gabaria. Il a parlé parce que vous avez dit généralement le signe paraît tardivement.
Oui.
Alors, un cancer non soigné, hein, c'est comment ça évolue?
Alors, comme je disais, on parle du cancer du col, mais en réalité, il faut parler des cancers, parce que chaque cancer est différent.
Exactement.
Chaque personne qui développe un cancer peut réagir de façon différente. Il y a des cancers fulgurants. Vous venez de découvrir, à peine vous découvrez que la personne est déjà envahie, ce qu'on appelle des métastases. En 3 mois, en 6 mois, en 1 année. Vous avez par contre d'autres dames que vous trouvez par exemple dans un état très avancé, mais qu'avec les petits soins que vous faites, vous la retrouvez 10 ans après. Toujours avec le cancer, mais toujours vivante. Donc vraiment, ça dépend à quel moment vous l'avez rencontré, comment la personne se défend elle-même contre le cancer, c'est très important, du moral de cette personne à ce moment-là, et puis de quel virus a entraîné le cancer. Voilà.
Voilà, alors il y avait cette question pour Célestin Kachouva. On a parlé de cette catégorie, hein, lorsqu'on a parlé de facteurs de risque, il y a des rapports sexuels précoces et également de multiples rapports sexuels. Alors, le Boumediene a parlé de la catégorie des élèves qui sont des fois très jeunes, mais qui connaissent déjà une activité sexuelle intense. Il a également parlé des professionnels des sexes. Il a cherché à savoir comment vous faites pour sensibiliser à ces deux catégories.
Bon, en fait, à ce qui concerne d'abord les jeunes filles, nous sommes aussi parmi dans le domaine d'intervention, et j'ai omis un domaine d'intervention, il y a les plaidoyers.
Oui.
Les plaidoyers, là, nous sommes en train de se battre avec le gouvernement, et donc, je félicite son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé, parce que nous, ça fait 10 ans, nous sommes dans la lutte, mais il y a quand même de l'espoir.
Il y a un certain rapprochement.
Tout à fait. Et tout ça, c'est les fruits de plusieurs plaidoyers des ONG qui ont milité pour que nous puissions avoir une stratégie ou un programme national de lutte contre les cancers. Et aujourd'hui, avec l'appui du ministre actuel, son excellence, monsieur le ministre de la Santé, nous avons un centre national de lutte contre les cancers. C'est sur ça qu'on va passer pour plaider que nos jeunes filles soient vaccinées contre les HPV, comme le docteur Sandrine vient de dire, parce que pour les prévenir un peu des cancers du col de l'utérus. Mais à ce qui concerne la sensibilisation.
HPV, c'est les virus.
Les virus qui causent les cancers du col de l'utérus et c'est transmis par l'homme. Comme
les papillomavirus, c'est bien ça.
Human papillomavirus.
Human papillomavirus.
Ouais, parce qu'il faut être moins technique ici. Mm-hmm. Hein,
ouais, tout à fait. Voilà, tout à fait. Donc, pour prévenir cette catégorie de personnes, donc les jeunes filles, donc nous sommes en train de se battre avec le gouvernement et l'OMS. Qui est notre partenaire, bien sûr, pour que nous puissions avoir ces vaccins-là pour prévenir ces couches de la population. Mais à ce qui concerne les filles ou les femmes à partir de 25 à 65 ans, on parle des cancers du col de l'utérus, nous allons vers eux, nous les sensibilisons. Comme au stade précoce, comme le docteur Sandrine vient de le dire, c'est difficile qu'on puisse remarquer des symptômes de cancer du col parce que les cancers du col se font sentir toujours au stade très avancé de la maladie. On facilite leur dépistage. C'est ici encore, je suis là encore pour féliciter les cliniques des anges que nous sommes en train de voir comment travailler en étroite collaboration parce qu'ensemble qu'on peut faire de grandes choses ou on peut vaincre les cancers. Et nous, à ce qui concerne les structures sanitaires ou les ONG, nous n'avons pas une structure pour prendre à charge les malades. Mais maintenant, nous allons vers les structures habilitées pour faciliter les dépistages et la prise en charge médicale. Et nous sommes en pourparlers avec la coordination de cliniques des anges pour soulager un peu la population à ce qui concerne la facilitation du dépistage gratuit et la prise en charge des lésions précancéreuses. L'approche est ceci. Donc, on dépiste des lésions précancéreuses parce qu'on ne dépiste pas les cancers. On dépiste des lésions précancéreuses. Une fois on a des lésions précancéreuses, on traite ça immédiatement. Donc, si on laisse les lésions précancéreuses, les lésions précancéreuses vont se développer vers un cancer. C'est ainsi que j'ai dit dans mon introduction, normalement, on ne devait pas mourir de suite d'un cancer du col de l'utérus. Donc, nous allons vers la population, nous les sensibilisons à ce qui concerne les facteurs de risque. Il faut que la population...
Et aussi les professionnels de sexe.
Vous tout à fait, également. Parce que les professionnels de sexe sont plus exposés à ce qui concerne les cancers du col.
Et la femme rurale.
Oui, et la femme rurale, bien sûr. Et
Madame
peut-être prochainement.
La femme rurale, apparemment...
Tout à fait. Nous tenons compte de tout ça. Et peut-être prochainement, je vais solliciter encore de votre indulgence pour une émission par rapport à un projet que nous sommes en train de lancer dans les milieux ruraux à ce qui concerne la garantie de l'hygiène menstruelle avec une approche particulière des serviettes hygiéniques réutilisables.
Vous serez les bienvenus. On s'achemine petit à petit vers la fin de ce magazine, cette deuxième partie sur les cancers du col de l'utérus. Le temps pour moi de profiter de la présence du docteur Maudia Sandrine pour parler rapidement de cette campagne qui se passe ici à Kinshasa, au Palais du Peuple.
Oui, le lancement a eu lieu le 5 mars en présence du premier vice-président du Sénat. Ce qui a permis d'avoir un grand écho. Et nous accueillons les dames dans nos cliniques des anges. Des dames qui justement viennent même à travers les ONG comme ASICAS. Nous les accueillons, nous faisons des consultations. Nous pratiquons les échographies et selon les besoins, nous donnons rendez-vous pour qu'elles puissent accéder au dépistage, au frottis du col. Et quand on a les résultats, en collaboration avec l'ONG, nous mettons des plans de stratégie pour la prise en charge. Alors, nous voulons absolument que la campagne reste gratuite, mais chez nous en clinique, par exemple, nous demandons qu'elles achètent juste une fiche de 5000 francs, parce que ça reste un acte médical, et donc les dames doivent être vraiment considérées comme telles. On peut pas venir, on regarde, et puis vous partez. Elles peuvent revenir, on a besoin de la prise en charge.
Et la campagne s'y tient tout le mois de mars, ou bien?
Tout le mois de mars. Mais nous allons également vers les femmes qui travaillent. Avec les cliniques mobiles, nous allons vers dans les marchés, dans les ministères, dans les ports, dans les entreprises, pour celles qui ne peuvent pas venir. Parce qu'au moment où nous travaillons, elles travaillent aussi. Et nous voulons pas qu'elles aient de prétexte pour pas avoir accès au dépistage.
Voilà, merci docteur Modia Sandrine. Vous êtes gynécologue, obstétricienne et médecin directeur général du centre médical Nganda ici à Kinshasa.
Non. Je suis médecin directeur de la clinique des anges.
Des anges, ah d'accord, merci. Ah voilà, vous êtes médecin directeur de la clinique des anges ici à Kinshasa, c'est bien ça.
À Kinshasa, Boma et Kisangani.
Voilà, merci également à Célestin Kachunga Madi, coordinateur de l'association internationale du cancer du sein. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir dans nos studios pour aborder ces sujets sur les cancers du col de l'utérus. Je pense bien qu'on aura également le plaisir de vous retrouver pour un prochain sujet sur les cancers du sein.
Merci beaucoup, c'est nous
merci
qui vous remercions.
Beaucoup. Merci beaucoup.
Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à ce numéro du magazine Okapi Service de ce jour. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à William Lungamba qui est à la mise en onde, à Tati Mapuku qui l'a réalisé et coordonné. À la présentation, c'était Marcel Ngomobala sous la supervision de Jean-Marc Matrek. Au plaisir de vous retrouver le jeudi prochain dans un autre numéro de votre magazine de la vie au quotidien Okapi Service. D'ici là, bonne suite de programme sur la fréquence de la paix. Au revoir à toutes et à tous.